7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Nous sommes le lundi 27 septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la page Merkel tournée. L'Allemagne entre dans une période imprévisible. Au lendemain des élections législatives, les sociodémocrates et les conservateurs revendiquent de former le gouvernement. Même si le SPD est en tête, nous serons à Berlin en début du journal. Après les autres titres.
C'est une information France Inter. Un brigadier, deux commandants et un commissaire de police épinglés pour leur gestion de la plainte déposée par Chaynaz à Mérignac. Elle avait été tuée par son mari en mai dernier. Les tests anti-Covid ne seront plus remboursés au 15 octobre, sauf pour raisons médicales. Ils restent gratuits, dit le Premier ministre, pour les mineurs qui seront soumis au pass sanitaire jeudi. Et puis lui entre dans l'histoire, Julian Alaphilippe, premier Français à conserver son maillot de champion du monde de cyclisme.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa, avec vous.
Un film très fort, très documenté qui raconte la vie des légionnaires français au Mali et celle de leurs épouses qui les attendent en France. La réalisatrice Rachel Lang et son légionnaire, Louis Garrel, seront avec nous à 7h50.
Et à 8h20, on se retrouve, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec donc l'un des candidats Les Républicains à la présidence de la République, Michel Barnier. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. Pas de vainqueur clair. Le SPD arrive un point seulement devant la CDU. Un perdant, le parti d'Angela Merkel sous les 30%. Et surtout l'incertitude comme maître mot ce matin en Allemagne. Car chacun revendique au lendemain des législatives la possibilité d'engager les négociations pour former une coalition. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin pour suivre ces élections. Vous étiez hier au siège des sociodémocrates. Alors comment ont-ils vécu cette soirée ?
Et bien tard dans la nuit, cadres et militants du SPD ont célébré ce score qu'ils interprètent comme une victoire, avec une progression de 5 points par rapport au scrutin de 2017. Rapidement, Olaf Scholz a mis en avant son court avantage. Il s'est présenté comme le futur chancelier. Une revanche pour un candidat en perdition il y a peu encore dans les sondages, décrit comme l'incarnation de l'ennui en politique par le magazine Der Spiegel, et une renaissance pour Nadia, une jeune militante.
Il y a encore quelques semaines, personne n'y aurait cru. Les sondages étaient complètement différents et on l'a fait. C'est formidable ce qu'il se passe. Olaf a atteint son objectif. Que demander de plus ?
Vous l'entendez, pas de place pour le doute chez les militants du SPD. La dynamique est bien de leur côté. C'est Olaf Scholz qui doit devenir chancelier.
Et une chose est sûre, Sébastien, Angela Merkel est quand même encore là pour un bout de temps en attendant que son successeur soit nommé. Et c'est là que le plus dur commence.
Oui, c'est vrai que les négociations débutent maintenant pour constituer des alliances, pour dégager une majorité au SPD, comme chez Armin Laschet d'ailleurs, qui s'est posé lui aussi hier soir en futur chancelier. Un bras de fer à distance entre les deux formations avec plusieurs scénarios et deux partenaires incontournables en position d'arbitre. Les Verts avec 14%, les libéraux du FDP avec 12%. C'est avec ces deux partis que Robert Drewnicki, un cadre du SPD, espère former une alliance.
Avec les Verts, on a des points communs, le salaire minimum à 12 euros, l'augmentation des retraites, la politique sur le climat. Les Verts ont un lien fort avec nous et pas avec la CDU. Ce n'est jamais facile de bâtir une coalition à trois. Par exemple, ici à Berlin, on sait à quel point c'est compliqué de gouverner avec deux autres partis, mais ce n'est pas impossible.
Pas impossible, mais long certainement. Il avait fallu 6 mois presque en 2017 pour mettre sur pied une coalition. Cette fois, le SPD entend bien boucler les discussions au plus tard à Noël.
Merci Sébastien Baer. Direct de Berlin avec Lucien Lefebvre. Et finalement, au bout de cette soirée interminable, tout le monde est plutôt déçu. Les militants des différents partis font grise mine. Les Verts, on vient de le dire, ne peuvent plus prétendre à la chancellerie. Et surtout les conservateurs, moins de 30%, une catastrophe selon le quotidien populaire Bild. Joachim Fenske, candidat CDU pour Berlin, résume assez bien l'état d'esprit au micro de Nathalie Versieux.
Ma première réaction a été la consternation. Je n'avais pas imaginé que l'électorat pourrait à ce point nous sanctionner. C'est vraiment totalement nouveau pour moi. J'espère seulement que nous resterons stables autour de 25% jusqu'au résultat final pour avoir peut-être un mot à dire sur la formation du futur gouvernement. De mon point de vue, Angela Merkel est intervenue trop tard dans la campagne. Elle aurait dû soutenir la candidature de Laschet. Elle ne l'a fait qu'au cours des dernières semaines, c'était trop peu. Beaucoup de facteurs expliquent ce résultat décevant. Tout d'abord, on s'est beaucoup trop disputé au sein du parti au début de la campagne. Ensuite, on a essayé de corriger le tir pour se disputer autour du fou rire de Laschet pendant les inondations. Tout cela au lieu de faire de la politique.
ohne inhaltlich überhaupt Politik zu machen.
Autre grand défi de ce scrutin, le populisme. Alors qu'il prospère chez ses voisins, il est hors du jeu politique allemand. L'extrême droite a fait moins de 11% des voix. 11% des voix, je vous rappelle le résultat provisoire. Le SPD, 25,7%. Les conservateurs, 24,1%. Résultat définitif qui seront scrutés par l'Élysée et tous les voisins européens inquiets de la possible paralysie des rouages de l'Union. L'Union européenne que le Royaume-Uni a quittée avec fracas. Mais voilà que le gouvernement britannique, qui n'a eu de cesse de renforcer et les règles d'immigration après le Brexit s'apprêtent à une spectaculaire volte-face. Rattrapé par les stations-service qui ferment faute de carburant, le Premier ministre britannique a annoncé ce week-end des mesures. L'une temporaire, 5000 visas de 3 mois délivrés pour des chauffeurs routiers. L'autre mesure, demander aux patrons d'augmenter les salaires. Le reportage sur une aire d'autoroute du Kent de Richard Place.
Ils s'arrêtent pour se reposer, manger un morceau, discuter un peu. Les plaques d'immatriculation viennent de toute l'Europe, Roumanie, Lituanie, Pays-Bas. Et les chauffeurs ne parlent pas un mot d'anglais, sauf Greg, qui s'appelle en fait Gregor. Ce Polonais est installé en Angleterre depuis longtemps. La pandémie et le Brexit n'ont pas eu raison de sa détermination. Mieux payer les chauffeurs, bien sûr, il est pour, mais selon lui, ça ne réglera pas tout.
Je pense que c'est bien parce que nous arrivons au pic d'activité avec Noël qui approche. Les salaires n'ont pas bougé depuis très longtemps ici. Mais même en les augmentant, les chauffeurs routiers ne vont pas arriver comme ça, d'un coup. On ne parle que de ça entre nous, c'est notre principal sujet de discussion.
Ces visas temporaires le laissent sceptique également, tout comme deux Turcs un peu plus loin qui n'imaginent pas une ruée de chauffeurs en Angleterre pour 3 mois seulement. Ils disent aussi qu'ils ne rencontrent presque jamais d'anglais sur ces parkings, ou alors de vieux conducteurs qui leur racontent que les jeunes ne veulent pas faire ce travail trop dur et pas assez payé. C'est pourtant bien eux que le gouvernement britannique veut convaincre de passer derrière le volant. Dans le Kent, Richard Place, France Inter.
Il manquerait 100 000 conducteurs de poids lourds au Royaume-Uni pour assurer la logistique également dans l'agroalimentaire.
Il est 7h07, la mort de Chahinez avait provoqué une vague d'indignation. France Inter révèle ce matin que l'ensemble de la chaîne policière impliquée sera sanctionnée.
5 mois après le meurtre de cette mère de famille de 31 ans à Mérignac, blessée par balle et brûlée vive par son conjoint alors qu'elle avait porté plainte contre lui. Un premier rapport de l'inspection générale de l'administration avait révélé une suite de défaillance. Emmanuel Leclerc, le directeur général de la police, doit convoquer prochainement un conseil de discipline.
Selon nos informations, le dernier rapport de l'inspection générale de la police nationale rendu ces derniers jours confirme qu'il y a bien eu une succession de fautes professionnelles et des erreurs d'appréciation. Un brigadier, deux commandants et un commissaire sont notamment concernés pour leur gestion de la plainte déposée par Chahinez en mars dernier contre son ex-mari déjà condamné à de la prison pour violence conjugale. Il l'avait fait monter de force dans sa camionnette sur le parking d'un supermarché avant de la séquestrer, de la frapper durant 2 heures. Le groupe d'enquêteurs désigné n'avait pas les compétences requises. Il y avait des absents pour cause de Covid et personne n'a saisi l'unité départementale de protection de la famille. Selon une source proche du dossier, les agents recevront un courrier du directeur général de la police nationale dans les prochains jours et certains seront renvoyés devant un conseil de discipline. Un vice-procureur bordelais et la directrice par intérim du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avaient également été mis en cause dans le premier rapport d'inspection en juin dernier, mais les services du ministre de la Justice n'ont pas donné suite à nos questions sur le sujet.
Le garde des Sceaux qui souhaite faire disparaître le rappel à la loi pour le remplacer par un avertissement pénal probatoire, dispositif qui permet de mettre une personne sous surveillance et la juger pour 2 délits si elle commet une autre infraction durant cette année. La fin des rappels à la loi a été votée par les députés en mai. Le projet de loi arrive demain au Sénat. Autre annonce ce matin dans la presse, Jean Castex, 1,4 milliard d'euros mobilisés pour la formation professionnelle jusqu'en 2022. Pour les chômeurs, le gouvernement veut privilégier les formations en entreprise. Le Premier ministre confirme par ailleurs la fin du remboursement des tests Covid au 15 octobre. Ils continueront toutefois, dit-il, d'être remboursés pour raisons médicales, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres. Gratuité maintenue pour les mineurs qui seront soumis au pass sanitaire jeudi, obligatoire donc pour les plus de 12 ans pour aller au cinéma ou entrer dans un restaurant. Alors que 30% des adolescents ne sont toujours pas vaccinés. Yann Galic.
Au lycée de Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, certains élèves n'ont pas l'intention de se faire vacciner dans l'immédiat, comme Nelson, 14 ans, et Riyad, 15 ans.
J'ai pas envie, j'ai pas confiance, mais je vais pas avoir le choix, parce que je fais du foot aussi. Si je me vaccine pas avant le 30, je pourrais plus aller. pour jouer les matchs. Du coup, je vais être obligé aussi. Ça me dérange beaucoup, beaucoup. On dit qu'on n'est pas obligé, mais si on veut continuer à vivre normalement, on est obligé de le faire.
Tant qu'on ne dit pas de se faire obligatoirement vacciner, je ne vois pas l'intérêt de le faire, justement.
Vos parents sont contre le fait que vous vous fassiez vacciner aussi ?
Ma mère, elle est contre, totalement contre.
L'instauration du pass sanitaire ne va pas changer grand-chose dans le quotidien des établissements scolaires, sauf dans certains cas, explique Freddy Leroux, il est proviseur dans un lycée de Seine-et-Marne.
Là où ça aura forcément un impact, c'est pour certains élèves de l'enseignement professionnel qui, de par leur période de stage, pourraient être obligés de présenter ce pass sanitaire si l'employeur, sur son lieu d'exercice professionnel, réclame ce pass sanitaire. Et puis aussi la question des sorties et des voyages. Dans le cas où on serait mélangé avec du public, mais on est dans un cadre facultatif, des petites choses que les élèves savent déjà et qu'on a déjà pris en compte depuis le début de la rentrée de septembre.
Selon les données de Santé publique France, près de 70% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de la moitié des adolescents ont déjà un schéma vaccinal complet qui leur permettra de présenter un pass sanitaire valide dès la fin du mois de septembre.
Et on rappelle aussi qu'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement sont également valables pour ce pass. Ce sera le centre d'excellence de la gastronomie française pour aider les cuisiniers ou les pâtissiers à défendre les couleurs de la France dans les compétitions mondiales. Emmanuel Macron en visite au Salon de la Restauration à Lyon tout à l'heure en a fait l'annonce hier soir. Ce centre sera basé en région lyonnaise. L'excellence du cyclisme mondial s'appelle depuis hier Julian Alaphilippe, vainqueur pour la deuxième fois du championnat du monde. Première pour un Français depuis la création de ces mondiaux en 1927. Exploit décroché avec panache à Louvain en Belgique et qui force l'admiration de ses coéquipiers, Fanny Lechevestrier.
Et une légende, quand elle regagne l'Hôtel des Bleus, ses coéquipiers la portent forcément en triomphe, bien conscient à l'image du sélectionneur Thomas Voeckler de vivre un moment rare.
Quel champion on a. Il faut vraiment que tous les gens qui aiment le sport, le vélo en France, soient conscients que ces moments-là, il faut les apprécier.
En profiter, car derrière ces rires, on en oublierait presque la portée de l'exploit. Julian Alaphilippe est le seul double champion du monde à avoir gagné deux fois en solitaire, laissant sans voix son coéquipier Benoît Cosnefroy.
Deux fois d'affilée, c'est vraiment fort et ouais, je me suis dit comment il a fait quoi. Donc là, j'ai vu quelques images, j'ai compris, mais c'est waouh.
Alors pour les Bleus, pas de doute, Julian Alaphilippe est aujourd'hui un grand parmi les grands, un exemple aussi et surtout pour Florian Sénéchal.
C'est une source de motivation pour les Français, mais aussi pour l'équipe. Moi, je le suis et voilà, il me motive tous les jours, même si on vit à 1000 km l'un et l'autre. Un mec comme ça dans l'équipe, ça mène tout le monde vers le haut. Ça le place dans la légende.
Mais une légende qui s'est restée simple et qui, tard hier soir, montrait encore le chemin de la fête à son équipe. Et c'est aussi pour cela que les Bleus le voient comme un champion inclassable, aussi généreux sur un vélo que dans la vie.
Et encore un mot de rugby dans le choc de la quatrième journée de top 14. Les rouges et noirs, plus forts que les jaunes et bleus. Victoire de Toulouse contre Clermont, 27-15. Toulouse, leader, Clermont, 13e.
Anaïs Feugat, merci. Le zoom dans 3 minutes avec les éoliennes en mer qui sortent la tête de l'eau.